France Culture, Le Grand Tour, Marie Sorbier.
Bonsoir Marie, où êtes-vous ?
Bonsoir Arnaud, suite de notre exploration de la création contemporaine en compagnie des lauréats de la Villa Kujoyama à Kyoto, et ce soir au programme une plongée dans le monde de la laque avec Nicolas Pinon et une tentative d'approche de la notion très japonaise de wabi-sabi avec le photographe Alain Villoum.
Bonjour, je m'appelle Nicolas Pinon, je suis artisan d'art et ma spécialité est la laque végétale inspirée des techniques japonaises. En fait, la villa, on va dire que c'est une longue histoire d'amour. J'ai visité la villa la première fois en 2006 et je me suis dit que je viendrais toujours faire cette résidence. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être invité en 2022 et je me dis qu'un mois, c'était pas assez pour développer le projet que j'avais. Et donc je reviens cette année en 2024 pour une résidence plus longue, pour développer voilà, un projet plus grand.
Vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi consiste le projet ? Alors pour cette résidence-là, un peu plus longue ?
Donc déjà, je suis, on va dire, lauréat en binôme. Donc je viens avec un designer, d'ailleurs avec qui j'ai eu le prix Bettencourt, donc il s'appelle Dimitri Linka. Et donc on vient tous les deux développer nos recherches sur les fibres et la laque végétale, qui a une longue histoire en France et une longue histoire au Japon. Et donc on vient un peu confronter ces histoires d'artisanat et de technique.
Adèle, bonjour.
Bonjour.
Où est-ce qu'on est ce matin ?
Ce matin, on est chez Takuya Tsusumi, qui est fabricant et vendeur de laque. Et c'est Nicolas Pinon qui nous amène, puisque c'est ici qu'il se fournit.
Là, on est dans un magasin ou dans un atelier ?
En fait, on est un peu dans les deux. Chaque vendeur de laque au Japon produit sa propre laque, donc il reçoit la sève de l'arbre qui est produite dans les forêts et les transforme dans l'atelier et les revend directement.
Peut-être que vous pourriez nous faire un mini point sur comment on fabrique la laque.
Exactement. Donc la laque, en fait, c'est la sève d'un arbre de la famille des sumacs, donc qui est récupérée. Et cette sève, en fait, est juste dans son utilisation filtrée, légèrement déshumidifiée. Elle est utilisée pour protéger les objets, les rendre plus solides et les rendre plus durables.
Alors, quand on rentre dans une boutique de fournisseurs de laque comme ici, dans le centre de Kyoto, on voit des objets alors, aussi différents que des planches de surf, des vélos. Il n'y a pas que les bols en bois laqué que l'on a dans nos imaginaires, mais tous les objets contemporains peuvent utiliser la laque. Et c'est une façon en fait, de faire perdurer cette technique traditionnelle dans le monde contemporain.
Je m'appelle Takuya Tsutsumi, je suis fabricant de laque et mon travail consiste à extraire la sève des arbres et à la transformer en laque.
Voici l'arbre qui va donc donner cette sève, donc on va scarifier l'écorce et de la scarification va sortir un liquide et c'est ce liquide qui va devenir la laque. Donc ça se fait sur la période de juin à septembre quand la laque est, on va dire, descendante à la fin du printemps et on doit attendre que l'arbre ait entre 10 et 15 ans pour pouvoir récolter. On va récolter la laque donc sur une saison et l'arbre à la fin de la saison il va être coupé. Parce qu'on aura récolté toute la sève qui sera nécessaire à l'utilisation.
Alors là, on entre vraiment dans la partie atelier. Et c'est l'odeur d'abord qui nous saisit.
Là, c'est la salle où on travaille la laque, la sève de l'arbre. On commence d'abord par l'étape d'enlèvement des déchets du liquide.
Là, il y a deux bras mécaniques articulés qui doivent, j'imagine, remuer la sève.
Ce bas qui va servir à mélanger de la fibre de coton avec la laque qui va permettre d'emprisonner les impuretés qui restent, parce qu'en fait pendant la récolte il y a toujours des petites choses qui vont rester dans la lague parce qu'elle n'est pas très bien filtrée. D'accord. Donc la lague va sortir et toutes les impuretés vont rester emprisonnées dans le coton.
Et ça, c'est une spécificité japonaise ou de Kyoto, ou par exemple en France vous trouvez aussi des fournisseurs de lacs pour travailler?
Alors pas du tout, donc moi je me fournis exclusivement au Japon pour la laque. On va dire qu'en Europe le milieu est tellement petit et tellement restreint qu'en fait il n'y a pas de marché, donc les gens importent la matière pour pouvoir travailler, et surtout tous les fabricants sont ici.
Et avec quel outil on la travaille, cette laque ?
Alors, on va travailler la laque avec des pinceaux, donc tout se fait à la main. Et surtout, ils utilisent des outils très traditionnels. Donc, ils vont utiliser pour l'application des pinceaux qui sont faits en cheveux de femme. Donc, ils sont restés plutôt assez traditionnels dans l'utilisation des pinceaux. Donc, ils utilisent du poil animal et donc du cheveu parce que pour l'instant, en qualité, en fait, ils n'ont pas trouvé les équivalents en synthétique.
Donc, vous, chez vous, vous avez un pinceau en cheveux de femme?
J'en ai plein. J'ai plein de pinceaux en cheveux de femme. J'ai même rencontré la personne qui les fabrique dans le nord du pays.
Je m'appelle Alain Villaume, je suis photographe, je fais partie du collectif Tendance Floue depuis 2010. Alors mon sujet c'est le wabi-sabi, donc il y a une espèce d'énorme notion philosophico-religioso quotidienne comme ça.
Que vous pourriez définir comment en quelques mots? Sais que ça va être difficile, c'est la question piège.
Mais les Japonais eux-mêmes ont un mal de chien à me définir ça, donc en fait ce sujet-là, cette notion, moi j'ai découvert il y a quelques années, sans du tout savoir rien sur le Japon, et au fur et à mesure que j'apprenais des choses là-dessus, je me disais mais c'est incroyable parce que moi je suis là-dedans depuis des années.
Ah oui, sans avoir le mot.
Sans avoir le mot, sans même savoir que ça existait au Japon. Et je me suis dit, mais pourquoi j'ai cette familiarité-là avec ce concept qui est totalement étranger à moi et à ma culture. Et en fait, le sujet que j'ai proposé, c'est d'essayer de comprendre ça, quoi.
Comment ça teinte votre travail d'être ici, en résidence, dans cette villa à Kyoto?
Je crois que la première chose marquante ici, c'est le froid, l'hiver. Les nuées, le brouillard, je suis parti dans la montagne faire des photos de nuages, faire des photos de paysages pris dans la brume, et je savais qu'il fallait que je commence par là. L'autre chose, c'est que j'aime pas la lumière du soleil pour les photos, donc il me fallait de la lumière d'hiver, pas de soleil, et l'ombre, pour moi, c'est lié beaucoup avec cette notion de wabi-sabi qui est c'est là où ça devient compliqué, c'est que il faut essayer de définir cette notion-là. Pour caricaturer à l'extrême par rapport à ce qu'on sait en Occident, wabi et sabi, c'est deux mots. Il y en a un qui est l'action du temps qui passe, c'est-à-dire que le vieillissement, l'altération des choses, l'altération des gens. Et l'autre côté, c'est la beauté de ça. Qu'est-ce qui fait que quelque chose d'imparfait peut être beau? Et moi, j'ai une façon de travailler qui intègre beaucoup les imperfections.
Vous pouvez nous montrer, là, on a sur nos genoux quelques-uns de vos premiers tirages. Vous pouvez nous parler d'une de ces photos qui vous semble caractéristique de votre travail ici?
Y a cette histoire de tremblement qui est sur toutes les images. C'est que pour la première fois, j'ai intégré un espèce d'effet qui fait qu'il y a une partie de l'image qui est tremblée. Et je ne comprenais pas pourquoi j'avais besoin de faire ça. Et je faisais ces images, et puis les images s'accumulaient, et je me disais, mais d'où ça vient cette histoire de tremblement? Et je me suis rendu compte que quelques jours avant, il y avait eu un tremblement de terre ici.
Je me suis dit, si vous l'aviez intégré corporellement.
Exactement, oui. Et ça donne une espèce de fragilité à chaque image.
Et est-ce qu'au bout de ces quelques semaines, et peut-être à l'issue de la résidence, vous aurez l'impression d'avoir résolu ce mystère de ce concept que vous êtes venu chercher ici, ou au contraire, le mystère va s'épaissir et va devenir de plus en plus grand?
C'est exactement ça. Il est devenu beaucoup, beaucoup plus grand et j'ai plus du tout envie de partir.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Eh bien demain, Arnaud, dernière étape de notre semaine avec les résidents de la Villa Kujuyama, nous serons avec le plasticien Simon Nicaise dans une brasserie de saké, puis direction Kanazawa pour comprendre le concept de post-résidence spécifique à la villa.
Merci Marie, et à demain. Hajimete kita.